Bonjour à tous, émission exceptionnelle aujourd'hui dans Profession de foi, l'émission politique de Radio Judaïca. Nous allons rejoindre Éric Vial depuis la librairie Kléber Strasbourg pour la 7e journée de l'éthique alimentaire. Il interviewe à cette occasion le député des animaux Loïc Dombreval pour son ouvrage intitulé « Barbarie ».
Bonjour, c'est Julien Villaès-Pichler, directeur commercial de Mediclic Alsace. Vous représentez une collectivité, une association où vous êtes un particulier? Vous recevez du public ou vous souhaitez assurer la sécurité de vos proches? J'ai la solution pour vous concernant le traitement ou la purification d'air et des surfaces. J'adapte vos besoins à votre demande. D'une salle de spectacle aux entreprises, en passant par des maisons, des offices ou des dispositifs individuels, contre le SRAS, le Covid, les particules fines, les pollens, les allergies, je peux vous proposer des appareils portatifs simples d'utilisation. Ils sont certifiés et à des prix défiant toute concurrence. N'hésitez pas à m'appeler au 07 68 06 75 87, au 07 68 06 75 87, pour toute demande de renseignement.
Bonjour Loïc Dombreval, merci d'avoir répondu à l'invitation des rencontres co-organisées par la librairie Kléber et l'Institut européen d'éthique alimentaire qui est rattaché à l'Université de Strasbourg. Ce sont donc pour nous les septièmes rencontres de l'éthique alimentaire, l'IEEA, qui est présidée par l'ancien ministre du Commerce extérieur François Loos et son secrétaire général Jean-Louis de Valmiger, qui est un restaurateur que nous connaissons bien ici dans la région. Regarde, il vérifie tout, il est même à côté de moi. Viens, voilà, voilà, comme ça, tout le monde verra. Il est là. Voilà, ça, c'est le secrétaire.
Bonjour, monsieur Dombreval. Bonjour tout le monde.
Voilà, c'est le restaurateur, l'ancien restaurateur de chez Yvonne. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un restaurant mythique à Strasbourg. Avant de commencer cette interview, je voudrais vous présenter en quelques mots pour ceux qui vont nous rejoindre et qui ne vous connaissent peut-être pas encore bien. Vous êtes député La République En Marche des Alpes-Maritimes, maire de Vence, vétérinaire de formation, administrateur de la SPA encore aujourd'hui ?
Non.
Voilà, c'est ancien administrateur de la SPA. Vous êtes toujours battu pour le bien-être animal. D'ailleurs, vos admirateurs et vos adversaires disent de vous que vous êtes le député des animaux. La loi contre la maltraitance animale, on vous la doit. Le bien-être animal qui devient un enjeu politique, c'est aussi vous. Le développement de la recherche publique sur l'agriculture cellulaire, c'est encore vous qui avez essayé de le développer. La dénonciation de l'élevage au sol aussi. La tribune en faveur du bio encore. Et vous venez donc d'écrire ce livre, et c'est pour ça qu'on vous a demandé de venir. Voilà, Barbarie, qui est sorti aux éditions Michel Lafon. Alors, votre livre, si vous le permettez, je vais le résumer en une phrase que j'ai trouvée absolument splendide. Il faudrait être inhumain pour se comporter avec les animaux comme une bête. Et pourtant, c'est bien ce que nous faisons, non ?
Oui, c'est un petit peu ce que l'on fait, c'est même beaucoup ce que l'on fait. J'ai essayé de décrire dans le livre dont vous venez de parler, et merci pour cette invitation, et merci de parler de ce livre que j'ai fait avec mon cœur, qui retrace tous les sujets qui me heurtent depuis longtemps. Ils sont nombreux. Oui, vous avez raison, on se comporte un peu comme des barbares avec des animaux. On considère, comme au temps de Pascal, que ce sont même pas des choses, en fait. Qu'un bien, souvent, est plus important qu'un chien. Voilà, que sa voiture, abîmer une voiture, ça doit être plus pénalisé que, finalement, avoir des actes de cruauté vis-à-vis des animaux. Et on le voit dans ce livre, et ce livre n'est pas exhaustif, mais il retrace les principales barbaries que l'on commet en France
vis-à-vis
des animaux. Oui, on a beaucoup de progrès à faire. Ça, on est sur la bonne voie, mais il reste encore beaucoup de chemin.
Alors, il y a un truc qui est très sympathique dans votre livre, je vais le faire tout de suite, ça m'évitera de le faire à la fin. Vous le dites carrément dans le bandeau, hein, l'ensemble des droits y est reversé.
Oui, bah c'est pour ça. C'est pour ça que
reverser la protection des animaux.
Tout à fait. J'en parle avec d'autant plus de facilité, de liberté. Si je fais la promo de ce livre, c'est aussi parce que les droits d'auteur vont être reversés intégralement à des associations de protection animale. Je parle de celles qui sont peut-être les moins connues, mais qui font souvent un travail remarquable dans des petites communes, dans des coins un petit peu reculés. dans lesquels il y a des bénévoles incroyables qui font un boulot de fou et qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est à celle-là, bien sûr, que je pense, parce que, vous savez, la cause animale, c'est aussi un sujet qui brasse énormément d'argent. Hein. C'est environ 150 millions d'euros tous les ans qui sont brassés en dons et en legs. Il faut faire très attention, il faut être très rigoureux, il faut faire ça avec beaucoup d'éthique, beaucoup de rigueur. Et il y a beaucoup d'argent. Il y a encore eu un cas récemment dans mon département, on a réussi à mettre fin à ce scandale qui mélangeait l'éthique et le respect qu'on doit aux animaux avec des considérations financières. Voilà, c'est pour ça que moi, j'admire vraiment terriblement ces bénévoles. Et c'est eux, ces bénévoles qu'il faut aider, ces petites associations. Donc, tous les droits du bouquin iront à ces petites assos.
Alors, Loïc Dombreval, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour vous, c'est la faute, c'est pas la faute à Voltaire, c'est la faute à Descartes. Tout vient de Descartes et son machine animale qui considère finalement que l'animal est dénué de sensations. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si l'animal a des sensations, s'il ressent quelque chose? Parce qu'effectivement, pour beaucoup qui maltraitent les animaux, la première chose qu'ils nous disent, c'est « mais c'est pas un homme, ça sent rien, ça réfléchit pas à un animal ».
Vous rendez compte du temps qu'il a fallu pour se rendre compte qu'au fond, la physiologie d'un mammifère comme nous le sommes, doté de capacités cognitives et d'intelligence qui sont jusqu'à présent incomparables, soit. Mais vous vous rendez compte du temps qu'il a fallu pour qu'on se rende compte que notre physiologie, à nous, êtres humains, était en tout point comparable à celle des animaux, que la douleur ressentie procédait des mêmes mécanismes physiologiques, que ce soit un chien, un chat, une vache, un mammifère quel qu'il soit, un oiseau également, un vertébré. Sachant que sur les invertébrés, on a aussi des récentes découvertes qui indiquent qu'ils sont dotés d'une sensibilité, d'une intelligence qui est absolument remarquable. Le temps qu'il a fallu pour se rendre compte de ça, c'est extraordinaire. Alors, et puis tout ça, bien sûr, il a fallu l'étayer parce qu'il y a bien, il y a plein de gens et plein de scientifiques pour commencer, et à commencer par ceux-là qui considéraient que, oula, un mammifère supérieur comme nous, les êtres humains, ça n'avait quand même rien à voir avec un mammifère autre, alors même qu'ils ont une symétrie bilatérale, ils ont un système nerveux central, ils ont des neurones, ils ont des récepteurs à la sensibilité qui sont les mêmes que les nôtres. Il a fallu redémontrer tout ça, parce qu'on partait effectivement de très loin avec Descartes qui considérait qu'effectivement... Et puis après, ça s'est suivi, ça a suivi avec toute une génération de scientifiques, Claude Bernard, qui procédait à des opérations sur les animaux sans anesthésier, considérant qu'ils ne ressentaient pas de sensibilité. Donc, maintenant, on le sait, des expériences l'indiquent, de grands instituts de recherche qui ont pignon sur rue, qui sont réputés pour la rigueur de leurs recherches, indiquent très clairement que les animaux ont une sensibilité, ont une intelligence, ont un langage, et que ne serait-ce que parce qu'ils ressentent la douleur, il convient de les respecter, de ne pas les maltraiter.
Mais ça, vous en parlez, on en est sûr scientifiquement aujourd'hui qu'ils ressentent de la douleur.
On en est absolument certain, on le sait parfaitement. Et c'est toutes les expériences l'indiquent et le prouvent.
Alors, moi, j'ai appris que depuis seulement 2015, l'animal est considéré en France par la loi comme un être sensible et que c'est inscrit dans la loi. Est-ce que ça va concrètement changer nos habitudes et nos pratiques?
Alors, tout ça.
Parce qu'en vous lisant, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et qu'il y a peu de résultats, si je devais être honnête.
Et moi, je vais être et je vais vous dire un truc que je pense foncièrement, c'est que si on prend les lois françaises et les règlements français les uns après les autres et qu'on les aligne et qu'on les empile, on est un pays qui défend parfaitement les animaux.
Oui.
Que vous l'avez indiqué à l'instant, en 2015, on a reconnu dans le code civil, c'était déjà le cas dans le code rural depuis 1976. On a reconnu dans le code civil que l'animal était un être vivant doué de sensibilité. Vous vous rendez compte quand même le temps qu'il a fallu et le nombre d'expériences à répétition scientifiques et de preuves qu'il a fallu apporter pour se rendre compte de ça. Et quand bien même on a eu cette avancée dans le code civil en 2015, il reste que dans ce code civil, il est indiqué que, d'accord, c'est un être vivant doué de sensibilité, mais sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. C'est-à-dire qu'à la fin, on a une avancée presque symbolique dans ce code civil, et les symboles sont importants en matière juridique et en matière politique, insuffisant probablement, mais important. Mais à la fin, quand même, on n'arrive pas à passer le pas et à dire, est-ce que finalement un animal, ce ne serait pas une personnalité, bien sûr pas humaine, mais pas une chose non plus, pas un objet. Est-ce que ça ne serait pas une personne animale, un animal? Est-ce qu'il n'y aurait pas un droit spécifique à l'animal? On en est encore loin. Hein.
Oui.
C'est par tout petits pas qu'on avance comme ça. Pour moi, le meilleur symbole de ça, c'est 1850, la loi Gramont qui dit « Tu ne taperas pas sur le cheval en public ».
Exactement. Et vous le dites dans votre livre, et vous dites depuis, bah, finalement, il n'y a pas grand-chose quand même qui s'est fait. Hein.
Et puis, alors après, quand même, on dit, Michelet dit, tu ne taperas pas sur un animal.
C'est vrai.
En public ou en privé. Vous voyez, c'est vraiment... Mais c'était pratiquement 100 ans après.
Oui.
Donc ça va extrêmement lentement. Mais, moi, ce qui me rassure, c'est qu'avec des collègues parlementaires, députés, sénateurs, bien sûr, avec les associations de protection animale, toutes les associations de protection animale, avec les médias, et avec des citoyens qui signent des pétitions, qui s'expriment sur les réseaux sociaux... On sent bien que depuis quelques années, il y a une montée en puissance du sujet et qu'elle est, à mon sens, irréversible.
Alors, c'est vrai qu'il y a une montée en puissance du sujet. Il y en a qui vous rétorquent que c'est un phénomène de mode. Vous, vous dites dans le livre, bah, ce n'est pas du tout un phénomène de mode. Vous citez Lamartine, Voltaire, Schœlcher, Diderot, Montaigne, qui étaient déjà des grands défenseurs
Zola.
De la cause animale. Zola, qui était des grands défenseurs de la cause animale.
Ouais. Les grands humanistes sont des grands défenseurs de la cause animale.
Alors, puisque...
Parce que quelque part, au fond d'eux-mêmes... Je suis convaincu qu'ils se disent, qu'ils assimilent ce combat à ces êtres vivants plus faibles que nous, qui ne peuvent pas s'exprimer, en tout cas qui pas avec notre langage, dont on peut abuser, que l'on peut frapper, sur lesquels on peut passer ses nerfs. Bref, des êtres plus faibles qui n'ont pas la parole, ils assimilent probablement ce combat à un combat plus général.
Alors, puisque nous nous rencontrons ici dans le cadre de l'éthique alimentaire, Loïc Dombreval, il faut bien évidemment que l'on parle de bouffe et de malbouffe, car si l'on tue des animaux, et vous en parlez dans le livre, bah, c'est bien pour se nourrir. Et votre livre Barbarie dénonce justement avec force, très intéressant, il y a des détails qui sont effectivement, pour ceux qui ne les connaissent pas, extrêmement troublants, dénonce avec force l'élevage intensif, mais honnêtement, est-ce que c'est possible de faire quelque chose aujourd'hui face à ces grands industriels?
C'est très compliqué.
Ouais.
Mais ça ne doit pas faire baisser les bras à ceux qui pensent que ce système de l'élevage intensif est un non-sens à tout point de vue. Et quand je dis ça, je ne convainc pas, en tout cas ceux qui sont eux-mêmes des acteurs de cet élevage intensif. Et d'ailleurs, en aucun cas, à aucun moment, je ne jette la pierre à ces éleveurs qui se sont engagés dans un système que les politiques eux-mêmes ont souhaité. Ce sont les politiques qui, après la Deuxième Guerre mondiale, ont dit aux éleveurs qu'il fallait qu'ils produisent plus vite et moins cher. Et qui se sont du coup engagés, ces éleveurs, vers cette intensification de l'élevage, cet hyper-productivisme, qui fait qu'aujourd'hui, qui se fait d'ailleurs au détriment de notre environnement, au détriment des animaux et du respect des animaux, mais également au détriment des éleveurs, me semble-t-il, eux-mêmes. Et moi, j'ai des exemples d'éleveurs qui sont passés d'un système intensif à des systèmes extensifs et qui retrouvent le sourire et la source de leur motivation à devenir éleveur, à élever les animaux. C'est ça, la réalité. Et moi, je veux bien débattre avec tout le monde, mais personne n'arrivera à me faire changer d'avis là-dessus. Tous les arguments scientifiques, économiques, sociaux, environnementaux et de bien-être animal indiquent que j'ai raison. Pas moi tout seul, avec plein d'autres gens. Mais simplement, quand vous dites ça, vous êtes tout de suite soupçonné d'être à la solde des grands lobbies, alors d'autres grands lobbies, qui sont ceux, effectivement, de l'agriculture cellulaire, les multinationales américaines. Systématiquement, on me demande, là, sur les réseaux sociaux, si par hasard, j'aurais des parts chez ma... Mais qui cherche, allez-y chercher. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et j'ai aucune part dans ces boîtes-là, et je m'en fous pas mal, et j'en aurai jamais. Je dis juste que ce système-là, intensif, il est appelé à disparaître. Et il sera remplacé par l'agriculture cellulaire, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et que donc, il faut se saisir de ce sujet-là. Mais pour autant, est-ce que ça fait de moi quelqu'un à la solde des multimilliardaires américains, mais pas du tout. Et je n'ai pas un euro, un centième d'euro dans la moindre boîte qui travaille sur ces questions-là. Mais simplement, vous voyez, c'est terrible parce qu'en fait, c'est lobby contre lobby. Ou alors, c'est lobby contre ceux qui voilà, c'est vrai pour la chasse, c'est vrai pour l'agriculture.
On va en parler, non ?
Voilà, c'est vrai pour l'agriculture. C'est assez désespérant, en fait. C'est un discours qui est un discours et un dialogue qui est impossible, extrêmement binaire. On n'arrive pas à trouver des points d'accord. Et systématiquement, vous êtes soupçonné, quand vous travaillez sur les questions de conditions animales, vous êtes soupçonné d'être vegan, antispéciste, d'aller taguer les vitrines des bouchers et d'aller taper sur les éleveurs.
Enfin, ce qui n'est pas votre cas, vous le dites dans votre livre, vous mangez
pas
de la viande.
Voilà. Pas du tout. Ouais. Voilà, et j'en mange avec parcimonie, comme de plus en plus de gens le font, voilà, en essayant de manger une viande qui est issue d'un élevage extensif, où on a respecté l'animal de sa naissance à sa mort, enfin autant que possible, et autant que je le sache. Voilà, enfin, c'est très important de réussir à trouver des endroits, des lieux d'expression comme celui-là ce soir, où on peut aller un peu plus en finesse dans des nuances qui sont devenues impossibles dans les médias traditionnels et dans les réseaux sociaux.
Alors, est-ce qu'avoir du respect pour les animaux, et ça vous en parlez moins dans votre livre, mais ça se voit à l'antenne, hein, je suis gourmand moi, est-ce que finalement ce respect qu'on peut avoir pour les animaux, c'est ne pas éviter le gaspillage ? Parce qu'aujourd'hui, dans cet élevage intensif, on tue des animaux, finalement, sans valoriser tous les morceaux de l'animal. Et on peut dire que c'est ce qui choque quand on voit le nombre de bœufs qui sont tués chaque année en France pour faire juste du hamburger et que le reste est jeté. Je ne reviens pas sur... mais vous en parlez aussi un peu dans le livre sur toutes les conséquences, effectivement, en termes de maladies, de pandémies. On se souvient de la vache folle où on donnait finalement des cadavres de vaches à manger à des vaches elles-mêmes. On est dans un cycle infernal. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à se dire, tiens, mais si on commençait par être raisonnable, évitons le gaspillage ?
Alors, il me semble, mais peut-être avez-vous des informations dont je ne dispose pas, que on essaie quand même, notamment sur une carcasse de bovin, d'utiliser le plus possible des produits et sous-produits. Les sous-produits bovins, par exemple, ou les sous-produits d'abattage sont utilisés très très couramment pour de l'alimentation animale, notamment du pet food, et plein d'autres choses. Donc je pense que, alors on n'est peut-être pas arrivé au terme et au bout de cette logique-là, mais on essaie quand même d'utiliser le maximum de l'animal après qu'il ait été abattu. C'est vrai aussi dans l'élevage de volailles, c'est vrai dans l'élevage porcin et dans les carcasses de porcins, c'est vrai dans les carcasses de bovins. Peut-être pas au bout, je sais pas, est-ce que vous avez des informations qui viendraient contredire ce que je viens d'indiquer, mais je pense que cette réflexion quand même est engagée sur une forme de rentabilisation au maximum de l'animal qui a été tué.
Tout à fait. Alors, dans votre livre, on apprend, il y a plein de chiffres qui sont très intéressants, on apprend que un quart du gaz à effet de serre provient de l'agriculture.
Ouais.
Comment on peut faire pour réduire ce taux ? On a des solutions ?
Il y a aussi et puis les surfaces agricoles qui sont aujourd'hui cultivées pour nourrir les animaux eux-mêmes et qui pourraient nourrir directement l'être humain. Enfin, là, il y a quand même un truc sur lequel on marche sur la tête. La protéine d'origine végétale. Enfin, aujourd'hui, il y a tout un discours. D'ailleurs, ça fait parfois qu'on s'asticote là, avec des collègues députés du même groupe parlementaire. Il n'a jamais été écrit que les protéines animales étaient absolument indispensables à la bonne santé de l'homme. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. Hein. Je dis qu'elles ne sont pas indispensables. On a besoin de protéines pour croître, pour grandir et pour vivre. Mais il n'a pas été écrit quelque part de façon indélébile et définitive que seules les protéines animales pouvaient être à l'origine, enfin, pouvaient rentrer dans l'alimentation. Donc les protéines d'origine végétale, du soja ou d'autres types de production végétale, pourraient directement aller nourrir l'homme plutôt que de nourrir l'animal qui va nourrir l'homme. Ben, je sais pas.
Ah, mais ça semble logique à ce que vous dites. Hein.
Ça paraît absolument évident. Pour autant, effectivement, on est dans une tradition historique extrêmement ancienne, où l'homme se nourrit d'animal. Pourquoi pas ? Et moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il faut rompre toute forme de relation avec l'animal, et notamment rompre des relations d'élevage. Je suis en cela assez en phase avec ce que disent des philosophes ou des gens qui travaillent sur ces questions, comme Jocelyne Porcher ou comme d'autres. Mais pour autant, il y a quand même une vraie réflexion à avoir sur le passage de la protéine végétale à l'homme sans passer par l'étape animale. Et derrière, effectivement, comme on le sait, comme ça a été prouvé et avéré, malgré ce que disent ceux qui sont effectivement les tenants de la production de viande au niveau français et international, la production animale génère, on le sait, un pourcentage non négligeable de gaz à effet de serre. C'est ainsi. Est-ce que les autres productions en produisent moins et les productions végétales? Oui. Et on le sait aussi, c'est avéré scientifiquement. Donc là, il y a une réflexion à avoir. Simplement, cette réflexion, effectivement, elle est très lente. Et on est rattrapé par tout ce que vous savez sur la question de climat, notamment, où on doit s'interroger et agir sur tous les paramètres. On commence à agir extrêmement clairement, par exemple, sur le paramètre de l'aviation, sur les voyages en avion. Très clairement. Il y a une vraie volonté d'agir là-dessus, sur ce paramètre-là. On est beaucoup plus réticent sur la question de l'élevage. Je l'observe. Effectivement, il y a des forces en présence qui font, comme vous l'indiquiez, j'approuve ce que vous avez dit, qui font qu'effectivement, le chemin, il est long, il est lent. Mais le problème, c'est que, encore une fois, pendant ce temps-là, la température augmente.
Alors, peut-être parlons des actions qui fonctionnent dans certaines villes. À Lyon, par exemple, il y a le maire de Lyon qui, désormais, propose des menus sans viande aux écoliers. Il y a eu toute une polémique là-dessus. Est-ce que, d'après vous, c'est une bonne chose, globalement? Et est-ce qu'il faut limiter, comme vous venez d'en faire référence, finalement, notre consommation de viande?
Bon, moi, je dis que oui, il faut limiter notre consommation de viande. Là encore, je ne dis pas parce que pour embêter quiconque ou pour faire le parce que je serais vegan, antispéciste ou je ne sais quoi. Je le dis parce que c'est une réalité, encore une fois, qui est avérée. D'abord, c'est une réalité sociale, sociétale. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens consomment de moins en moins de viande. Et par ailleurs, ça vient effectivement aussi, et c'est conforté par toutes les études qui indiquent que cette consommation a des effets à la fois sur sa propre santé, mais également sur la santé de l'environnement. Voilà. Je pense qu'il faut effectivement qu'on réduise cette consommation de viande. Je pense qu'il faut qu'on se consomme de la viande, qu'on consomme de la viande de bonne qualité et locale. Ce qui pose d'ailleurs une question à laquelle il est compliqué de répondre, c'est-à-dire que cette alimentation saine, locale et de qualité, il faut qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Et il ne faut pas, je veux dire, la première des santé, elle vient de l'aliment, et donc ça serait profondément inégalitaire et injuste que seuls ceux qui sont riches puissent se nourrir avec une alimentation saine de qualité et locale. Premier point. Deuxième point, effectivement, on peut avoir une alimentation saine de qualité et locale avec des protéines autres que des protéines d'origine animale, et il faut effectivement aller dans ce sens-là. La démarche du maire de Lyon, il l'a mal présentée peut-être, je ne sais pas. Puis après, derrière, il y a eu des chicaneries politiciennes desquelles j'essaie autant que possible de m'extraire, pas toujours, mais j'y arrive pas toujours, mais voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est là encore une dynamique qui est enclenchée. Le repas végétarien hebdomadaire, puis ça va augmenter. Vous savez, à l'Assemblée nationale, on n'en parle jamais. Mais à l'Assemblée nationale, il y a une petite brasserie, il y a un truc, il y a un snack, il y a un machin. Il y a systématiquement une alternative VG.
Ouais, les gens ne le savent pas, c'est vrai. Ouais.
Tous les jours. Voilà, pourquoi? Pourquoi à l'Assemblée nationale, il y a une alternative VG et pas dans les cantines de nos gamins? Moi, je sais pas, il y a une raison différente. On a le droit de manger mieux. Enfin, c'est quoi l'histoire? Donc, il faut qu'on mange plus de protéines d'origine végétale pour les quelques raisons que j'ai évoquées. C'est une dynamique qui est enclenchée. Il y a des votes à l'Assemblée nationale qui l'ont indiqué. Nous-mêmes, à l'Assemblée, à la brasserie, au machin et au bar, on mange du végé tous les jours. Enfin, en tout cas, on peut. C'est pas mon cas. J'en mange de temps en temps, mais j'en mange pas tous les jours. C'est à ça qu'il faut effectivement qu'on réfléchisse et sur laquelle il faut qu'on aille.
Alors, votre livre pose une problématique, d'après moi, fondamentale, elle est radicale. Vous dites que finalement, en agissant mal, en se comportant mal avec les animaux, nous dérégulons la nature et ses grands principes, et ça peut provoquer, effectivement, et on le voit bien aujourd'hui, des maladies et des pandémies. Vous pensez qu'il est urgent d'agir, finalement?
Oui, j'aime beaucoup la réflexion de Gilles Boeuf, qui est un type extraordinaire, un chercheur fantastique, qui était président du Muséum d'Histoire Naturelle, et qui dit que c'est l'ignorance et la cupidité de l'homme qui le font dégrader nos espaces naturels, dégrader notre biodiversité, et que ces actes-là se retournent effectivement contre lui. Je veux dire, mais ce n'est pas un truc divin.
Oui.
Parce que j'ai vu aussi que... il y avait des politiques là, qui comparaient ça à voilà, des espèces de revanche de la nature divine, enfin un truc un peu ésotérique. Ce n'est pas ça le truc. C'est extrêmement concret, c'est aussi très scientifique. Et ce qui se passe avec la Covid-19, c'est l'illustration absolument extraordinaire de ce que dit Gilles Boeuf, de ce que disent plein d'autres scientifiques, et de la raison pour laquelle il faut absolument qu'on ait une réflexion beaucoup plus globale sur les santé, non pas sur notre propre santé. Notre propre santé, elle est dépendante directement de la santé des animaux et de l'environnement. De plus en plus de maladies nous proviennent des animaux. Et pourquoi ? Pas parce que Dieu se venge sur l'homme, parce que simplement l'homme va abîmer la nature, rentre et explore des territoires dans lesquels il se niche des germes, des virus et des bactéries qui sont encore ignorés, mais qu'on estime à environ 1000 ou 1500, des virus et des bactéries qui sont encore ignorés de l'homme, mais qui pourraient être potentiellement des germes absolument redoutables pour notre santé, et extrêmement virulents et extrêmement contagieux. C'est le cas des coronavirus. Alors, on ne sait pas bien si c'est le pangolin, si c'est la chauve-souris. La chauve-souris, c'est certain, mais on ne sait pas bien s'il y a un autre intermédiaire, pangolin, machin. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que, pour faire simple, on va dans la nature, tac, 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 on casse tout, on prend l'animal sauvage, on le ramène, on le met au contact d'animaux domestiques, débrouillez-vous, contact. Et derrière maladie. L'animal domestique, il est au contact voilà. De qui ? De l'homme. Voilà. Et donc, santé de l'environnement, intégrité de l'environnement, santé et intégrité de l'animal et de l'homme sont trois santé, trois intégrités et trois santé qui sont complètement connectées. Et tant qu'on n'aura pas compris ça et qu'on ne fera pas attention aux trois en même temps, eh ben on sera confronté à des zoonoses comme la Covid-19, comme il y a eu d'autres avant et comme il y en aura d'autres, comme il y en aura d'autres après.
Alors, je voudrais qu'on parle aussi de l'alternative à la viande animale. Vous en avez fait référence il y a un instant, la viande cellulaire, ça c'est un peu l'avenir. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, qui vont nous écouter sur Facebook, c'est la viande cellulaire, mais c'est quoi ? C'est de la viande ? C'est un machin ? C'est quoi la viande cellulaire ?
Alors, la viande cellulaire…
Et vous en parlez dans le livre, hein, vous dites que c'est l'avenir la viande cellulaire, hein, et qu'il faudra s'y mettre.
Je pense que c'est l'avenir. Le problème, c'est que des fois, on a raison trop tôt. Je suis sûr que j'ai raison, mais j'ai peut-être raison trop tôt. Sauf que c'est pareil. Quand on écrit des choses là-dessus, je vais expliquer rapidement ce que c'est pour vos auditeurs. Quand on écrit des choses là-dessus, on se fait taxer, encore une fois, d'être à la solde des multimilliardaires américains qui y voient un intérêt financier. La viande au niveau mondial, c'est 300 milliards de dollars de marché. Hein. Ouais. Donc, quand on est un milliardaire américain, on dit 300 milliards de dollars. Ça m'intéresse. OK, c'est leur problème. Sauf qu'il n'y a pas que les milliardaires américains des hautes technologies et de l'IA qui s'intéressent à ces sujets-là. Il y a aussi les plus grands acteurs de la viande traditionnelle nord-américaine qui investissent dans ces startups. Donc, c'est ça dont il faut se rendre compte. C'est l'Union européenne, à Strasbourg, qui dit, dans l'European Green Deal, il y a de l'argent qui doit être destiné à réfléchir, à faire de la recherche sur ces questions-là.
Alors, la viande cellulaire, c'est quoi ?
La viande cellulaire, c'est une cellule à l'origine de la viande cellulaire, c'est une cellule musculaire d'un bovin, ce qu'on appelle un myoblaste, une cellule musculaire, qu'on va dans un réacteur, c'est-à-dire dans une grande cuve avec un milieu de culture, faire se multiplier pour recréer finalement une espèce de muscle, enfin en tout cas d'amas de cellules musculaires, d'amas de protéines d'origine animale. Quand on mange de la viande, c'est du muscle, hein, d'accord ? Alors il y a en plus des nerfs, il y a en plus des vaisseaux sanguins. Il y a en plus de la graisse, mais c'est essentiellement des cellules musculaires. Et bien, ces cellules musculaires, on est capable aujourd'hui de les faire se multiplier, on est capable de reconstituer à partir d'une cellule de myoblaste, d'une fibre musculaire d'un bovin, de reconstituer pratiquement un steak. Voilà, ça s'appelle l'agriculture cellulaire, enfin, ça s'appelle la viande cellulaire. Alors, ça a l'air absolument effrayant, on dirait un truc d'une
cellule. Ah oui, bien sûr. On dirait une série de... Ouais. C'est le même goût que la viande, c'est pareil que la viande ?
Écoutez, ça a quasiment le même goût que la viande.
Vous avez goûté, vous ?
J'ai goûté un morceau, c'est quasiment le même goût que la viande. Et c'est le même apport protéique. Voilà. Alors, il reste plein de questions à explorer. Encore une fois, parce que c'est pas non plus... voilà, mais il faut rechercher et trouver. Parce que, est-ce que ça a moins d'impact sur l'environnement ? Personnellement, j'en sais rien. Mmh. Quel impact économique et social ça va avoir sur l'élevage intensif ? Parce que ça aura un impact sur l'élevage intensif et très peu sur l'élevage traditionnel de haute qualité, à la française, petite exploitation, etc. Quel impact ça aura sur notre propre santé? Toutes ces questions, elles restent encore à élucider. Mais si on fait comme ça, et qu'on ne veut pas voir le sujet, et qu'on laisse les multimilliardaires américains s'en occuper, mais aussi les Hollandais, mais aussi les Allemands, mais aussi les Espagnols,
c'est ce que vous dites, hein.
S'en occuper, c'est ce que je dis dans mon bouquin, on va se retrouver un jour avec un steak cellulaire dans l'assiette, et nos éleveurs qui seront à la rue.
Pourtant, voilà. Loïc Dombreval, vous êtes député, moi je regarde l'actualité, et j'ai appris, c'était le 21 avril dernier, que les députés viennent d'interdire la viande cellulaire dans les cantines. J'ai peut-être une mauvaise information, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu dans la presse.
Ça m'a échappé.
Bon, je vous enverrai l'article alors.
Je veux bien, parce que là, je suis très surpris. Est-ce que... D'accord. Ok. Les députés français.
Les députés français. Est-ce qu'il y a un doute alors, moi, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, il y a un doute.
Ah non, je serai bon, au courant de cette...
Peut-être que c'est moi qui me trompe, mais je ne crois pas. Mais c'était le 21 avril.
Très bien, je veux bien lire cet article parce que je suis extrêmement
choqué.
Par contre, il y a eu des réactions, effectivement, des députés très impliqués sur les questions agricoles, du ministre de l'Agriculture qui a réagi quand, par exemple, Singapour a autorisé la consommation de steaks d'origine cellulaire sur son territoire. Mm-hmm. C'est le cas aussi de la FDA, hein, l'autorité de régulation de la mise sur le marché des produits d'origine agricole aux États-Unis, qui a autorisé la consommation. Les Français sont extrêmement réticents. Ils veulent effectivement, et je le comprends parfaitement, préserver absolument effectivement l'agriculture française. Et c'est ce que je souhaite aussi. C'est ce que je souhaite aussi. Mais je dis simplement que ce n'est pas en se mettant des œillères sur les yeux qu'on va réussir à avancer sur le sujet et à éviter le fait que cette évolution-là, elle existe, elle avance très vite. Et qu'on ne pourra pas l'éviter.
Est-ce qu'on peut parler aussi d'un sujet délicat que vous abordez dans votre livre, Loïc Dombreval, c'est l'abattage rituel, les abattages rituels. Cachère, par exemple, ou celui des musulmans. Est-ce qu'il faut l'interdire? Moi, je vous raconter comment ça se passe un peu. J'ai appris qu'un animal pouvait souffrir pendant 14 minutes avant de mourir, finalement. Il y a des pays qui ont décidé d'interdire, hein, vous le dites dans le livre, ces abattages rituels. Est-ce qu'il faut le faire en France?
Alors, moi, d'abord, le préalable à cet échange sur ce point, qui est un point extrêmement
délicat.
Parce que dès qu'on aborde ce sujet-là, on est soupçonné d'être islamophobe,
antisémite,
d'être voilà. Je ne sais quoi encore. Ce qui est, bon, après, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais ce qui n'est absolument pas mon cas. Moi, sur cette question-là, j'ai un raisonnement qui est un raisonnement. J'essaie d'avoir le plus factuel possible. Est-ce que l'animal souffre? Oui. Quand certains me disent qu'il ne souffre pas et qu'en fait, on ne sait pas si il souffre parce qu'eux-mêmes n'ont jamais été égorgés, très bien. J'en suis des fois à ce type d'argument quand même, hein, pour m'expliquer qu'en fait qu'est-ce que t'en sais qui souffle l'animal quand on l'égorge, vu que moi j'ai jamais été égorgé, je sais pas. Bon, des pays effectivement ont aujourd'hui aboli l'abattage rituel, c'est-à-dire au plus exactement l'abattage sans étourdissement.
Exactement.
D'accord. Il n'a jamais été indiqué nulle part dans aucun texte, ni la Torah ni le Coran, qu'il fallait ne pas étourdir un animal préalablement à l'égorgement. Il y a toute une série, il y a tout un rituel qu'il n'est absolument pas question de remettre en question. Mais sur cette question-là, qui fait souffrir un animal, il n'y a rien qui indique dans ces textes religieux qu'il faille absolument étourdir. Ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, à telle enseigne que certains pays qui mangent kasher et halal, ne pratiquent plus l'étourdissement. C'est quand même stupéfiant. Il y a un texte ou il n'y a pas un texte? Non, bah apparemment, il n'y en a pas. Donc déjà, premier point. Deuxième point, on est aujourd'hui dans un débat, notamment au sein d'un comité national d'éthique des abattoirs, qui a été mis en place à la suite d'une mission d'enquête parlementaire sur la question effectivement des abattoirs français. Et dans ce comité national d'éthique des abattoirs sont représentés le culte juif et le culte musulman. Des discussions sont en cours. C'est extrêmement compliqué et long de trouver un consensus. peut-être qu'on pourrait effectivement avancer, et il y a une piste d'évolution qui pourrait être soit un étourdissement qui serait un étourdissement réversible, c'est-à-dire qu'on ne tue pas l'animal, mais on ne fait que l'étourdir, parce qu'aujourd'hui, l'étourdissement tel qu'il est pratiqué dans un, pour nous, pour notre consommation, ni halal ni kasher, c'est un étourdissement qui effectivement qui tue l'animal, qui en fait c'est un étourdissement irréversible. Donc dans le cadre de l'abattage rituel, il pourrait y avoir un étourdissement réversible ou un étourdissement qui se passerait juste après le fait que l'animal a été égorgé. Ce sont les pistes de sortie qui sont étudiées aujourd'hui dans ce comité d'éthique des abattoirs, sachant que, par ailleurs, comme je vous le disais, que certains pays n'étourdissent plus, enfin plutôt n'abattent plus rituellement sans étourdissement. Oui. Donc on avance, mais on avance très lentement.
Alors, votre livre dresse, et cela fait froid dans le dos, je l'ai dit hein, tout à l'heure, une liste non exhaustive de la maltraitance animale dans notre quotidien et en France, en passant du gavage des oies, dont on parlera tout à l'heure, parce qu'évidemment, c'est important, le foie gras en Alsace, l'élevage des porcs, les animaux sauvages du cirque. Quel est pour vous, s'il fallait vraiment choisir ce qu'on peut choisir dans cette liste terrible, la pratique qu'il faudrait abolir le plus rapidement possible, si vous en aviez une à choisir?
Alors, en matière d'élevage ou en matière d'animaux d'élevage ou en matière de...
J'allais dire d'abolition de la maltraitance animale. Qu'est-ce qu'on pourrait faire tout de suite pour dire ça, maintenant, on arrête?
Il y a des pratiques d'élevage. Enfin, c'est difficile de vous dire. Je veux dire, moi, j'ai pas. Il n'y a pas de
hiérarchie. Quand on voit, par exemple, dans votre livre, vous mettez beaucoup de détails sur. On coupe la queue des porcs quand ils naissent finalement, parce qu'ils se la mangent. On enlève à vif leurs dents pour pas qu'ils se mordent entre eux. Il y a des trucs quand on lit. On n'a plus du tout envie de manger ensuite derrière.
Ce sont des pratiques d'élevage qui sont liées à la densité d'animaux au mètre carré, qui font que ces animaux, étant les uns contre les autres, on est obligé de leur enlever un certain nombre d'attributs, parce que sinon ils se les mangent entre eux, ou parce que voilà, donc c'est ça le problème. Non, mais je sais pas, franchement, les conditions de transport et de transport des animaux sont souvent absolument odieuses.
Vous en parlez beaucoup, c'est vrai.
Ouais, moi je suis vraiment, mais profondément attristé quand je vois des animaux sauvages enfermés en captivité et en itinérance dans les cirques. Et même si je sais que les circassiens, ils me le répètent à longueur de journée, je le sais, j'en ai conscience, aiment leurs animaux et ils font attention. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Un hippopotame, c'est pas fait pour vivre dans une baignoire. Bah. Et je trouve que ces spectacles-là sont extrêmement très attristants et antipédagogiques.
Et en même temps, Loïc Dombreval, moi j'ai eu la chance de bien connaître Arlette Grus, ouais. Qui avait installé son siège social à Strasbourg. Et justement, dans votre livre, vous critiquez les artistes du cirque et vous avez agi vous aussi pour faire adopter l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Mais je peux vous assurer vraiment que, même s'il ne faut pas nier les dérives, que les gens du cirque, très majoritairement, aiment leurs animaux. Est-ce qu'il faut aller si vite dans l'interdiction de ces animaux sauvages dans les cirques? Parce que souvent, c'était des animaux d'ailleurs qui étaient recueillis à cause de trafic. Voilà, des animaux qui étaient quasiment perdus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces animaux? Enfin, vous étalez ça dans le temps. Hein.
D'abord, effectivement, ce n'est pas une mesure brutale. Ce que j'ai toujours... premièrement, je le répète, et je l'ai dit avant que vous le disiez, je sais qu'ils aiment leurs animaux et qu'ils en prennent soin aussi bien qu'ils le peuvent. C'est le cas dans la majorité des cirques. Ça, c'est le premier point. Ce n'est pas toujours le cas, attention. Hein. Et ce que je vous dis là, c'est vrai également, par exemple, pour les parcs zoologiques qui sont passés à côté de la proposition de loi, sachant que sur les parcs zoologiques, c'est un autre sujet. Mais certains parcs zoologiques sont exemplaires, d'autres ne le sont pas du tout.
C'est vrai.
Et ceux qui ne sont pas du tout et qui ne respectent pas la réglementation minimale, parce qu'elle est vraiment minimale, qui est à appliquer, devraient être systématiquement, fermés, en tout cas dénoncés et retoqués par les services d'administration. Pour ce qui concerne les cirques, d'abord la mesure, elle n'est pas, c'est pas une mesure d'abolition brutale du jour au lendemain, c'est une mesure qui va s'étaler dans le temps, sur au moins 5 ans, à partir du moment où la loi sera promulguée. des circassiens ont déjà commencé à se rendre compte que ce n'est pas du fait de moi ou du collègue député, ils se rendent compte qu'effectivement, on est dans des logiques où la fréquentation baisse de plus en plus. Les enfants disent à leurs parents qu'ils ne veulent plus aller voir les animaux dans le cirque.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est une réalité aussi. Mmh. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, il y a une montée, effectivement, de la sensibilité autour de ces questions et une fréquentation des cirques qui baisse. Ces cirques, il faut les aider. Il faut les aider à la fois culturellement, et d'ailleurs, il y aura un accompagnement très fort du ministère de la Culture pour faire en sorte, pour les accompagner dans une redéfinition de nouveaux spectacles autour d'autres animaux que des animaux sauvages ou sur d'autres sujets, en tout cas artistiques. Il faut un accompagnement social qui est absolument indispensable parce qu'on sait que les circassiens vivent dans des conditions qui sont des conditions souvent difficiles et que le bien-être des animaux ne peut pas se faire au détriment du bien-être des humains. Ça, c'est aussi un grand principe que j'ai très ancré dans ma tête. Il ne peut pas y avoir d'abord pour les animaux et après pour les humains. Il faut qu'il y ait pour les humains et aussi pour les animaux. C'est très différent. Vous voyez, les accompagner socialement, les accompagner bien sûr financièrement, culturellement, artistiquement, et ça dans le temps. Mais vous savez, cette logique-là, elle est inéluctable. Le désintérêt croissant qu'on a pour les spectacles où on fait faire le poirier à l'éléphant ou de la moto à un ours, en dehors du fait de montrer qu'on est vraiment très 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 fort, nous êtres humains, et qu'on est bien bien supérieur et qu'on sait dresser des animaux qui n'ont rien à faire sur un vélo ou rien à faire à faire le poirier, je vois pas tellement l'intérêt éducatif, je vois pas l'intérêt à tout point artistique, et c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est le public. Donc voilà, ça ne veut pas dire. Non, il faut les accompagner. Alors, Arlet Bru, je pense que ce que vous évoquez, c'est avec les chevaux, c'est peut-être avec les chevaux.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Oui.
Hein, les chevaux ne sont pas du tout concernés par les mesures qui sont prises dans la proposition.
Tout à fait, c'est les animaux sauvages.
Exactement, c'est les animaux sauvages. Et convenez avec moi qu'un éléphant, une girafe, un hippopotame, animal.
Des pingouins.
Ce sont des animaux qui, et on le voit dans leur comportement, ce sont des éthologues, des comportementalistes, des vétérinaires spécialistes sur ces questions-là qui le disent. Oui. Il y a un vrai problème psychologique, de souffrance psychologique de ces animaux. Il faut en tenir compte, et c'est le sens de ces propositions de loi. Pour ce qui concerne Arlette Bru, j'ai le plus grand respect pour le travail qu'elle fait. C'est un travail magnifique, avec des chevaux, animaux domestiques, domestiqués. Je sais que.
Et d'ailleurs, le cirque s'est déjà mis, comme vous l'avez dit, puisqu'il n'y a plus d'animaux sauvages dans leur cirque, par exemple. Exactement. Les grands professionnels l'appliquent déjà.
Exactement.
Ils l'ont compris.
Les plus grands cirques ont commencé déjà à appliquer par anticipation, en fait, cette mesure qui va être votée, parce qu'elle n'est pas encore. Hein. Il reste encore un débat au Sénat et un deuxième débat à l'Assemblée nationale.
Une deuxième lecture, oui.
Donc rien n'est encore acquis et il faut être prudent. Mais voilà en tout cas ce que je voulais vous dire. Et pour ce qui concerne les chevaux, je sais que des antispécistes, des gens extrêmement radicaux, considèrent que toute forme de domestication d'animal doit être abolie. C'est pas du tout mon cas. C'est pas du tout ma façon de voir les choses. Je suis pas du tout dans des approches radicales. Et je pense même que ces approches radicales nuisent à l'avancée de la cause.
Et d'ailleurs, c'est un des grands principes de votre livre. On voit que vous n'êtes pas un radical. Voilà, vous êtes sur des positions toujours le respect de l'animal, mais assez assez médiane. On en parlera tout à l'heure avec la chasse. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle, parce que j'en ai fait référence, au foie gras, parce qu'on est dans une région de foie gras. Alors, vous parlez du gavage, des oies et des canards. Vous savez que en Alsace, c'est important le foie gras. Pas seulement en Alsace, vous allez me dire. Mais moi, je ne sais pas, je vais vous dire franchement, comment on fait du foie gras sans gaver les oies, Loïc Dombreval?
Ah ben, on ne peut pas.
Ah ben voilà.
Oui.
et on a quand même envie de manger du foie gras.
Eh ben, je conçois très bien, mais c'est ce que je dis dans mon bouquin. Le problème, c'est quoi?
Si vous dites qu'il y a des choses qui existent, mais que ça fait des petits foies, donc bon, en termes gustatifs, ce n'est pas terrible.
Ah, c'est vachement meilleur.
Bon, ok.
Non, mais le truc, c'est que ne peut, dans la loi, Ouais, c'est quand même extraordinaire. Dans la loi, ne peut s'appeler foie gras. Donc, sur un packaging que
oui,
vous allez trouver
exactement.
Au supermarché, vous ne pouvez voir marqué foie gras que
si c'est du gavage.
Le foie a été obtenu par gavage.
Tout à fait. Bah...
Bien. Non, alors, typiquement, ça, c'est quelque chose que j'ai mangé et je ne mange plus. Je mange de la viande, mais le foie gras, je n'en mange plus. C'est mon problème. Je cherche rien à imposer à personne. Chacun fait ce qu'il veut avec... ses propres goûts et sa conscience. Voilà, moi, j'ai le foie gras, j'ai arrêté, et j'avoue que j'aimais bien ça. Mmh. Donc, uniquement par gavage. Donc, moi, je me dis, je suis producteur de foie gras, je me dis, comment je peux faire pour en obtenir un maximum? Comment je peux produire plus vite et moins cher? Puisque je rentre dans des logiques qui sont des logiques en tant qu'éleveur, qui sont des logiques de rentabilité économique, que je peux tout à fait concevoir. Et là, derrière, année après année, je m'équipe avec un matériel qui va effectivement permettre de gaver plus vite et moins cher. Et donc, on arrive à un gavage automatique où on rentre une tige dans le gosier de l'oie ou du canard, on lui injecte à coup d'automatique la mixture permettant de rendre le foie stéatosique et le foie gras, et ce qui nous permet d'avoir un foie gras gros, rapidement, machin, et effectivement de limiter la durée pendant laquelle on élève l'animal, pendant laquelle on gave. C'est ça qui me choque, tout en comprenant la logique économique, sachant que par ailleurs, on peut obtenir un foie gras d'une autre façon. Alors effectivement, on l'obtient de façon plus lente, et le foie est plus petit. Mais ce foie-là, qui est aussi un foie excellent et qui est développé notamment par nos voisins espagnols et maintenant par certains Français, ne peut pas s'appeler foie gras.
Eh ben,
pourquoi?
Ah ben ça, c'est à vous de décider, c'est vous le législateur. Hein.
Mais vous avez raison. Moi, je suis favorable au fait de retirer obtenu exclusivement par gavage. Je vais demander de supprimer un petit morceau de la phrase, voilà, pour faire en sorte que ceux qui veulent produire différemment, de façon plus respectueux du bien-être animal, voilà, si tant est qu'on puisse le faire en gavant un oie, un foie et en le rendant malade, parce que c'est ça, on rend l'animal malade.
Tout à fait.
Donc là aussi, ça peut interroger. On a le droit de se poser la question. Eh bien, je voudrais que ces gens-là qui produisent un foie gras, j'allais dire, un peu plus éthique, puissent le faire et s'appeler foie gras.
Alors, Loïc Dombreval, aux surprises, dans votre livre, Barbarie, on découvre que vous êtes favorable à la chasse. Et vous dites, je suis favorable à la chasse à condition qu'elle se fasse dans les règles de l'art. C'est quoi une chasse dans les règles de l'art?
Moi, je vais présenter les choses différemment. Alors d'abord, je ne suis pas chasseur, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais, je n'arrive pas. C'est pareil, c'est ma propre sensibilité, ma propre histoire, ça vient depuis tout petit, et je n'arrive pas à tuer un animal s'il n'y a aucune nécessité de le tuer, mettre fin à sa vie. J'ai mis fin à la vie de nombreux animaux en les euthanasiant, quand j'étais vétérinaire. Et je leur ai rendu service ainsi qu'à leur propriétaire. Je le sais. Et il y a d'autres questions qui se posent d'ailleurs sur cette question, mais qui dépassent ce cadre de l'animal et qui ont été en débat récemment à l'Assemblée nationale. Tout ça pour dire que sur la chasse, je ne suis pas chasseur, mais la chasse aussi est une activité ancestrale. Elle a toujours existé. Elle se faisait au caillou, puis après à la lance, et puis après, voilà, puis après au fusil, puis après, voilà.
Donc ça, c'est des règles de l'art.
Ben, disons qu'en fait, moi, je ne suis pas défavorable aux chasses qui ne font pas souffrir les animaux. C'était une double négation. Alors, je vais vous le dire en positif, je suis favorable aux chasses qui ne font pas souffrir les animaux. Or, il existe des chasses qui font souffrir les animaux.
Chasse à quoi ?
La chasse classique à tir que vous connaissez bien dans votre région, c'est-à-dire où le chasseur tire un coup de fusil sur un animal, en général, le tue sur le coup. Cet animal n'a pas été traqué, il n'a pas été angoissé, sentant venir la mort ou sentant venir les chiens, aux odeurs, au bruit, à la course. Donc l'animal est tué sur le coup. J'ai pas de problème fondamental avec ça. Voilà. Par contre, j'ai un problème fondamental avec ces chasses dites traditionnelles.
La chasse à la glu, vous en parlez.
La chasse à cour, la vénerie souterraine. C'est horrible.
C'est horrible.
Absolument dégueulasse. Voilà, ces chasses-là, me semble-t-il, sont des chasses sur lesquelles il faut évoluer et auxquelles il faut mettre fin. Et vous savez, c'est une petite taquinerie, mais je suis en plus convaincu que mettre fin à ces chasses rendrait service aux chasseurs. Parce que d'abord, elles sont anecdotiques. Il y a très peu de gens qui chassent encore comme ça en France. Voilà, ils sont trop nombreux, toujours trop nombreux, mais il y en a très peu. Par contre, il dégrade absolument de façon terrible l'image en général de la chasse. Voilà. Et moi, je pense que, et surtout, ils font très, très, très mal aux animaux. Et ils les angoissent terriblement. La chasse à courre est une chasse extrêmement angoissante et qui fait souffrir l'animal. La souterraine, la chasse à la glu, la chasse à la matole, toutes ces chasses traditionnelles.
Alors, vous faites également dans votre livre Barbarie de nombreuses propositions. Il nous reste peu de temps, mais je voudrais qu'on en parle de quelques-unes. Une qui me paraît intéressante, vous revenez sur une proposition qui avait été faite par Robert Badinter pour les animaux, l'option d'un défenseur des droits des animaux. De quoi s'agit-il exactement ?
Bon, moi, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Robert Badinter pendant assez longtemps dans le cadre d'une mission qui m'avait été confiée sur ces questions de conditions animales. Et j'ai été extrêmement surpris. Il a fait cette proposition à un colloque d'une fondation, de la LFDA, et j'ai été extrêmement surpris d'entendre Robert Badinter, qui est que je n'avais jamais entendu prendre parti ou position sur ces questions des animaux, faire cette proposition. Robert Badinter considère à juste titre qu'un secrétaire d'État ou un délégué interministériel, enfin bref, quelqu'un qui serait dans le gouvernement, lié au gouvernement, ne pourrait pas avoir une position sur la question du droit des animaux indépendante. Voilà. Lui, il pense, et je pense qu'il a raison, en tout cas je partage son avis, qu'une autorité administrative indépendante du gouvernement, indépendante de l'État, qui puisse dire quand ça ne va pas, sans être contraint, sans subir de pression, est quelque chose qui pourrait faire grandement avancer les choses. Cette autorité administrative indépendante, ce défenseur des droits, comme il existe un défenseur des libertés, un défenseur des droits des êtres humains, pourrait être une avancée très intéressante, indépendante, s'exprimant quand il le souhaite, ou quand elle le souhaite, cette autorité, sur les sujets qu'elle souhaite. Je pense que ça pourrait vraiment être un aiguillon intéressant pour faire avancer encore plus rapidement la cause animale en France.
Et une autre proposition que vous faites, il y en a plein d'autres, mais qui m'a semblé extrêmement intéressante. Il y a beaucoup de chevaux dans notre région. On estime qu'il y a plus de 10 000 chevaux. Vous dites que pour les chevaux, vous proposez de mettre une certification de capacité pour tout nouvel acquéreur. De quoi s'agit-il ? C'est quoi votre constat ?
C'est une disposition qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale dans la proposition de loi. C'était un amendement qui a été proposé par une députée qui a été adopté. C'est un amendement qui a été adopté, un petit peu d'ailleurs à l'équivalence de ce qu'on a proposé pour la possession d'un animal de compagnie. Alors pour les chevaux, de quoi il s'agit ? Le cheval, animal absolument extraordinaire, qui a une vie qui est une vie longue, plus longue qu'un animal de compagnie traditionnel. C'est un animal de production dans le droit français.
Et dont il faut beaucoup s'occuper.
Dont il faut beaucoup s'occuper, qui réclame beaucoup d'attention, beaucoup de soins, et qui est un animal qui coûte cher et qui vit longtemps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, le cheval, c'est l'acquisition un petit peu impulsive. Énormément.
Comme les animaux domestiques.
Exactement.
Vous dites que la France est championne d'Europe des abandons.
Tout à fait. Et sur le cheval, alors on a moins de chevaux en France qu'on a d'animaux de compagnie, mais. Ils vivent beaucoup plus longtemps que les animaux de compagnie. Un cheval, ça vit couramment le double, voire parfois le triple, que la vie d'un chat ou d'un chien. Ça vit jusqu'à plus de 40 ans.
Oui.
40 ans. Et le coût moyen d'un cheval tous les mois, c'est à minima du minima dans les 200-250 euros.
Oui, c'est vraiment minima. On est plutôt sur du 300. Voilà.
On est plutôt sur du 300. Je vois que j'ai affaire à un connaisseur.
Tout à fait. Et encore, c'est pas cher, 300.
Ouais, mais c'est vrai. Sauf que quand on acquiert l'animal, papa, je veux un poney. Vous savez, c'était Charlie, la chocolaterie. Papa, je veux un poney. C'est souvent comme ça que ça se passe, et c'est souvent des jeunes filles. L'équitation est un sport extrêmement féminin. On le voit très bien quand on va dans les centres.
83% de filles.
Exactement. Et souvent, donc, les parents acquièrent le cheval ou le poney, et puis, sauf qu'au bout de 5 ans, l'enfant a grandi, et puis qu'on ne sait pas quoi faire du poney, et puis qu'à la fin, il se retrouve dans un champ, dans un pré. Souvent seul, ce qui est triste pour lui parce qu'il a besoin de compagnie, ce cheval, et puis qu'on n'a plus les moyens de le nourrir et qu'on ne sait plus quoi en faire. Et c'est là que les choses se compliquent. Et donc, je pense absolument indispensable, avant l'acquisition d'un équidé, un âne ou un cheval, qu'il y ait un minimum de connaissances sur ce cheval, sur comment ça marche, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui, combien de temps il vit, etc., etc. Et tout ça, ce sont des choses qui sont souvent inconnues avant l'acquisition. Ça va changer. Il faut que ça change, et il faut que les gens, avant d'acquérir, est souvent ces connaissances qu'ils acquièrent une fois qu'ils ont que le cheval est dans le pré.
Merci Loïc Dombreval d'avoir répondu à nos questions. C'était très intéressant. On aurait pu passer une deuxième heure tranquillement avec vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc c'est Barbarie, qui dénonce le mal-être animal, avec une préface, on n'a pas eu le temps d'en parler, de Nicolas Hulot, mais qui est une très belle préface. Qu'est-ce qu'on vous souhaite maintenant à vous pour les animaux et votre combat ?
Autant de bonheur à l'avenir que celui que j'ai eu jusqu'à présent à traiter ce sujet, et surtout le fait que la proposition de loi dont j'étais rapporteur général, qui a été débattue au mois de janvier, eh bien passera rapidement au Sénat, ça ne saurait tarder, puis revienne à l'Assemblée nationale pour être définitivement adoptée. Ça permettra d'avancer grandement sur la question de la condition animale en France, de renforcer les sanctions pénales, qui aujourd'hui ne sont même pas celles quand on détruit un bien. Vous vous rendez compte ? Bah, tout ça va avancer, va évoluer, et c'est probablement ce qu'il faut me souhaiter. Ça va se passer dans les mois prochains. Merci beaucoup, parce que c'était un moment très, très agréable pour moi de débattre sereinement avec des questions précises, en abordant tous les sujets, même les plus compliqués. Donc vraiment, bravo et merci pour cette invitation.
Eh ben, on peut remercier et la librairie Kléber et l'Institut européen d'éthique alimentaire qui ont organisé cette 7e rencontre de l'éthique alimentaire.
Je vous remercie sincèrement l'Institut et la librairie.
Eh ben voilà, merci, à bientôt, au revoir.
Et vous également, qui êtes un très bon intervieweur.
Merci beaucoup.
Sincèrement, à bientôt.
Au revoir Loïc.
Au revoir.
Depuis la librairie Kléber pour la 7e rencontre de l'éthique alimentaire. Vous pouvez retrouver cette interview de Loïc Dombreval sur le site internet de Radio Judaïca Strasbourg, soit sur le site YouTube de l'Institut d'études de l'éthique alimentaire, où vous pourrez voir Loïc Dombreval et Éric Vial. Bonne journée à l'écoute de nos programmes.
Bonjour, c'est Julien Villaès-Pichler, directeur commercial de Mediclic Alsace. Vous représentez une collectivité, une association ou vous êtes un particulier ? Vous recevez du public ou vous souhaitez assurer la sécurité de vos proches ? J'ai la solution pour vous concernant le traitement ou la purification d'air et des surfaces. J'adapte vos besoins à votre demande. D'une salle de spectacle aux entreprises, en passant par des maisons, des offices ou des dispositifs individuels, contre le SRAS, le Covid, les particules fines, les pollens, les allergies, je peux vous proposer des appareils portatifs simples d'utilisation. Ils sont certifiés et à des prix défiant toute concurrence. N'hésitez pas à m'appeler au 07 68 06 75 87, au 07 68 06 75 87, pour toute demande de renseignement.